Et à quand remonte justement votre dernier courrier rédigé avec un stylo sur une feuille de papier? Nous l'observons tous dans notre vie quotidienne. Nous avons peu à peu remplacé justement nos stylos par les claviers. L'écriture manuscrite est-elle aujourd'hui dépassée? Des pays comme les États-Unis ou la Finlande ont carrément décidé d'abandonner l'apprentissage obligatoire de l'écriture manuscrite cursive, c'est-à-dire attachée, au profit de l'ordinateur. Mais quelles sont les conséquences de ces choix pédagogiques sur nos gestes, sur notre cerveau? On en parle dans un instant avec mes invités. Le chercheur en neurosciences cognitives Jean-Luc Velay et le philosophe Éric Sadin. Et toutes vos questions et vos messages arrivent en ce moment même sur franceinter.fr. Vous pouvez nous rejoindre également sur les réseaux avec le mot-clé « l'attaque ». Et puis vous vous souvenez sûrement des Bushmen qui ont été les stars d'un film « Les dieux sont tombés sur la tête ». Une étude qui vient d'être publiée affirme que cette population a longtemps été dominante sur notre planète. C'est à la une de la science aujourd'hui. On en parle dans un instant avec la préhistorienne Marilène Patoumatis. Voilà pour le sommaire de cette nouvelle Tête au carré, réalisée par Violaine Ballet et préparée par Lucie Sarfati, Axel Villard et Gabriel Bennett.
La Tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Jean-Luc Velay, Éric Sadin, bonjour à tous les deux. À quand remonte votre dernier courrier à l'ancienne, rédigé avec un bon vieux stylo sur une bonne vieille feuille de papier? Est-ce que vous vous en souvenez, Jean-Luc Velay, par exemple?
Oui, moi je pratique encore l'écriture manuscrite assez régulièrement.
Même c'est si, donc vous
Même si je suis aussi évidemment un adepte de l'écriture au clavier, parce que c'est difficile de ne pas écrire au clavier aujourd'hui.
Ouais. Mais vous écrivez beaucoup à la main ou pas?
Oui, finalement, j'écris à la main les documents volumineux, c'est-à-dire que quand je suis...
Ça, c'est le travail du chercheur.
Ouais. Oui, voilà, quand je suis face à un document un petit peu volumineux, que j'ai besoin d'aller de l'avant, du début à la fin, etc., dans le document numérique, je suis assez rapidement perdu, et donc j'ai tendance à revenir à mes pratiques anciennes. L'écriture au stylo et le papier.
Éric Sadin, vous qui êtes spécialiste de l'évolution de nos rapports au numérique. Alors pareil, dernier courrier à la main, c'était quand pour vous?
Alors je dois avouer que je ne m'en souviens plus.
Ah ben voyez.
C'est-à-dire que ça remonte. En revanche, j'ai toujours un carnet sur moi, avec moi, et je prends régulièrement des notes. Et ces notes-là, je préfère les prendre au stylo et les noter sur du papier.
Oui, donc vous avez encore une relation minime.
Mais irrégulière.
On voit quand même irrégulière. Voilà. Jean-Luc Velay, ça sert encore à quelque chose d'enseigner l'écriture aux enfants aujourd'hui?
Enseigner l'écriture manuscrite, oui, je pense que, bon, on va en discuter, mais à mon avis, c'est très important. Le débat actuel, là, suite à ce qui se passe en Finlande, c'est plutôt la disparition de l'écriture cursive au profit d'une écriture différente où toutes les lettres sont détachées. Ça, c'est un débat, donc ça n'est pas la suppression complète de l'écriture manuscrite, c'est le changement de passage d'une forme d'écriture attachée, celle qu'on connaît en France, à une autre forme d'écriture. C'est un débat qui est quand même récurrent dans les pays d'Amérique du Nord. Ce débat, il date des années 60 et peut-être même avant. Et donc, il ne faut pas s'alarmer complètement de ce qui se passe en Finlande. On change de forme d'écriture, mais on écrit toujours.
Allez, on en parle dans quelques minutes ensemble avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent, là aussi sur le clavier via le numérique. À tout à l'heure. Les Bushmen ont sans doute été pendant longtemps la population qui a dominé notre planète. C'est étonnant et c'est à la une de la science aujourd'hui.
Au cœur du Kalahari, il y a des Bushmen. Leur langage est très particulier. Il est abondamment émaillé d'un curieux cliquetis de la langue. C'est un peuple très doux. Ils ne punissent jamais les enfants et ne les grondent même pas. Et naturellement, ceux-ci sont très bien élevés, leurs jeux sont charmants et très imaginatif.
Extrait du film « Les dieux sont tombés sur la tête ». Avec cette publication donc étonnante, cette semaine, dans la revue Nature, on apprend qu'il y a plus de 30 000 ans, les Bushmen, donc cette population de chasseurs-cueilleurs africains, étaient le peuple qui dominait non seulement en Afrique, mais sur toute notre planète. Ils ne sont plus que 100 000 aujourd'hui. Marilène Patoumatis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes préhistorienne, responsable du département d'archéozoologie au Muséum national d'histoire naturelle. Donc c'est une étude génomique qui a permis de conclure à la prédominance démographique des Bushmen sur Terre, il y a plus de 30 000 ans. Alors, vous n'êtes pas généticienne, vous êtes préhistorienne. Qu'est-ce que vous avez pensé en lisant cette étude ?
Écoutez, j'étais déjà très intéressée puisque j'avais eu la chance de vivre il y a quelques années chez eux pendant 3 mois. Bon, moi, ça ne m'a pas étonnée, surtout sur le fond, parce qu'ils ont montré non seulement qu'ils étaient au niveau démographique abondants, mais surtout qu'ils occupaient toute l'Afrique australe. Et ça, je dois dire qu'avant ces travaux de génétique, il y a les travaux de terrain archéologique.
Ah, il y avait déjà des preuves, en fait.
Bien sûr, et d'anthropologie, puisque là, j'avais déjà souligné dans un ouvrage que j'ai fait qu'il y avait vraiment une occupation très importante de l'Afrique australe que par eux. Ils étaient isolés. Et l'archéologie, comme l'anthropologie fait par le professeur Tobias en particulier, montrait qu'ils étaient vraiment issus de cette région, qu'ils ne venaient pas du nord comme plus tard les Bantous. Donc pour moi, ça n'a pas tellement été une surprise. Par contre, où je suis un petit peu étonnée, c'est le pas qu'ils franchissent pour dire qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que tout le restant de la planète. Ça, j'ai un peu du mal, j'ai essayé de comprendre, parce que bon, ils parlent beaucoup de la glaciation, l'interglaciation, les changements. En Afrique, on appelle ça les pluvieux, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas la glaciation. Et ils disent que justement, eux, ils ont été dans un environnement plus vert, etc. Donc, ils se sont bien développés, mais partout en Afrique, c'était ça. Donc, c'est le saut que je ne comprends pas entre le fait de dire qu'ils étaient abondants, ça, je suis tout à fait d'accord, en Afrique australe, mais où je suis sceptique, c'est pourquoi dire qu'ils sont plus abondants que les autres.
Ça, c'est juste une conclusion ou il y a des faits, il y a des preuves en tout cas qui permettent d'arriver à une telle proposition sur ces Bushmen qui auraient dominé donc l'ensemble de la planète.
J'ai pas trouvé justement d'argument dans leur papier. Sur le terrain, ce qu'on voyait, c'est qu'il y a eu un recul des populations Bushmen, malheureusement, vers des régions extrêmement dures comme le désert du Kalahari, comme le désert de Namibie. C'est une pression qui a commencé, d'ailleurs, à l'âge du bronze, qui a commencé il y a 4000 ans avec les Bantous, hein, qui sont arrivés du nord, qui commençaient à peupler avec des animaux domestiques en plus. Et donc, on fait une pression sur eux, puis surtout à partir du 15e, 16e siècle avec les Blancs. Oui. Donc, ils ont été complètement, à ce moment-là, la démographie a beaucoup baissé parce qu'ils étaient dans des territoires de plus en plus réduits. En plus, leur subsistance, c'est la chasse.
Avec des pratiques qui n'étaient pas du tout les mêmes que ces nouvelles populations qui arrivaient.
Donc, c'est surtout à partir de ce moment-là que ça a un peu baissé. Mais je ne pense pas que vous savez, pour les chasseurs-cueilleurs, la démographie n'est jamais énorme de toute façon. Donc même s'ils étaient beaucoup plus abondants que maintenant 100 000 personnes, c'est parce qu'ils ont été tellement martyrisés. Mais je ne comprends pas bien leur explication, c'est pourquoi dire qu'ils sont plus nombreux que les autres. Non, ils étaient très abondants dans toute cette région et les seuls pendant très longtemps.
Oui, alors Marilène Patoumatis, l'étude a comparé le génome de 5 Bushmen avec celui de 1400 personnes issues de 48 des groupes ethniques à travers le monde et on conclut justement au fait qu'ils auraient dominé non seulement l'Afrique mais le reste de la population mondiale. 5 Bushmen seulement pour en tirer de telles conclusions.
Oui, c'est le problème de l'échantillonnage. Hein. Dès qu'on fait de l'ADN, il y a un problème d'échantillon, surtout chez ces peuples. Et là aussi, ce qui est gênant, c'est cette notion de dire qu'ils ont dominé. Non, je pense qu'ils étaient abondants. De toute façon, en plus, c'est une société qui n'était pas très locale. Hein, c'est-à-dire que l'homme reste dans son groupe d'appartenance et c'est la femme qui va à l'extérieur. Et donc, c'est elle qui s'est mélangée avec des Bantous, par exemple, avec des Zouana. Et donc, il y a cette. C'est pour ça qu'il y a des présences de gènes chez certains Bantous et pas l'inverse. C'est-à-dire que les Bushmen n'ont pas été avec des femmes Bantous. Et donc, ce qui est intéressant de voir là, c'est surtout le fait que ça entérine ce que je répète, hein, je prêche pas pour ma paroisse, mais quand même un peu que déjà l'archéologie et l'anthropologie avaient dit, c'est-à-dire une grande importance, un grand territoire très vaste, toute l'Afrique australe et une abondance quand on voit les sites et tout, toutes les peintures. Hein, qu'il y a aussi sur les parois qui sont merveilleuses, qui ont été faites il y a très longtemps par eux. Donc il y avait vraiment une occupation massive. Mais je n'irais pas personnellement, d'après leur argumentation, à dire qu'ils dominaient tout.
Bon, donc une petite critique hein, quand même, une réserve.
Une réserve,
en tous les cas, sur une réserve, cette
parce
publication
qu'en plus, voilà, et comme vous l'avez très justement dit, c'est 5 Bushmen. Ouais. 5 San, je préfère les appeler San.
Oui,
parce que Bushmen, c'est un peu péjoratif, c'est ma vieille
pour
culture.
Pour eux aussi, d'ailleurs, hein,
voilà,
effectivement.
Tout à fait.
Vous parlez de civilisation, d'ailleurs. Vous, hein.
Oui, moi je pense que, voilà, on est en face en ce moment, là, c'est pas tout à fait le sujet de l'étude, mais moi je m'alarme, vous savez, l'attachement que j'ai pour tous ces peuples chasseurs-cueilleurs en voie de disparition. Mm-hmm. Et là, le problème, c'est ça. C'est-à-dire que là, une fois de plus, on voit le processus qui a à chaque fois fonctionné, que ce soit sur les Inuits, les Indiens, l'Amazonie. On a le même processus, c'est-à-dire de l'extermination d'une civilisation. Si ce n'est humainement maintenant, on ne va pas les tuer, mais en tout cas, on fait ça quand on leur enlève du territoire, du gibier et tout, etc. Donc forcément, on les conduit vers une disparition en tant que culture. Et là, en ce moment, ce qui se passe, c'est quand même dramatique. Il y a des alarmes de survival international. C'est-à-dire qu'ils sont dans, par exemple, je pense à ceux avec qui j'étais dans le Kalahari. Il y a beaucoup de mines maintenant très intéressantes, que ce soit des minerais différents qui nous intéressent, nous, les Occidentaux, ou le diamant et autres. Et donc, on les prend, on les relocalise. Vous voyez, on fait des villages de relocalisation. Moi, ça sent quand même le parkage, vous voyez, ça sent quand même la réserve. Et là, malheureusement, c'est ce qui s'est produit pour les Inuits. Et ben, c'est fini, parce qu'ils ne peuvent plus être libres. Déjà, pour eux, c'est dramatique. Donc, il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a le sida, et c'est la fin. Là même, biologiquement, je suis même très inquiète, parce qu'ils sont 100 000, je ne sais pas combien ils vont en rester.
Oui. Comment vous avez communiqué avec eux lorsque vous étiez pendant ces 3 mois auprès des Bushmen?
Et ben justement, ce que
vous avez cliqué?
J'ai cliqué.
Vous avez cliqué?
Non, malheureusement, je n'ai pas cliqué. Mais en fin de compte, c'est ça qui est passionnant avec les êtres humains. Où l'on soit, on peut communiquer sans langage. Donc vraiment, par gestes, par sentiments, par réactions diverses, des attitudes. Donc je trouve ça passionnant. Et puis là, votre sujet est intéressant parce que là, on parle d'un peuple oral, de tradition orale, qui a vécu des milliers d'années et qui a transmis toutes ces traditions simplement par le côté oral. Oui. Donc là aussi, c'est quand même un phénomène intéressant parce que l'oralité a beaucoup perdu. Et que vous allez peut-être en parler avec vos invités, mais c'est le problème aussi du vocabulaire, parce que les Inuits, ils ont plus de 100 noms pour la neige, par exemple. Donc, je veux dire, les peuples de tradition orale ont beaucoup de vocabulaire.
Voilà la transition donc, pour parler justement d'apprentissage de l'écriture manuscrite avec nos invités dans un instant. Même pas un petit clic, Marie-Hélène Patoumatis, avant de nous quitter. Je suis sûr que vous savez cliquer.
Non, mais je ne vais pas cliquer. Allez, ça va faire ridicule.
Un petit clic. Il n'y a aucun bushman qui nous écoute.
Non,
là.
Je vais leur faire simplement un petit coucou au
Ah ben voilà, Marie-Hélène Patoumatis, auteure de ce livre, Une mort annoncée à la rencontre des Bushmen, justement. Voilà, ouais. Dernier chasseur-cueilleur du Kalahari. C'est aux éditions Perrin en 2007. Merci d'être venu cet après-midi dans La Tête au Carré.
Au revoir.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, hier, les responsables de la NASA ont annoncé que le robot Curiosity, présent sur le sol martien depuis le mois d'août 2012, apportait une nouvelle preuve que la planète rouge a un jour été propice à l'existence d'une vie microbienne. Curiosity, en forant le sol et en analysant les roches et les couches de sédiments du massif dans lequel il se déplace, en effet trouvé des traces d'un grand lac alimenté par des rivières pendant des dizaines de millions d'années. Jusqu'au 12 décembre, vous le savez, Lima, la capitale du Pérou, accueille la 20e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Monde, daté d'aujourd'hui, nous raconte que le site choisi pour la conférence se situe dans le district de San Borja, un quartier huppé, réputé pour ses espaces verts et sa faible empreinte carbone. Mais Christelle Barbier, dans son article, raconte qu'à quelques rues de là, Lima, avec ses 9 millions d'habitants, est une des villes les plus polluées du monde, construite dans un désert avec un trafic routier qui génère de fortes concentrations de fines particules, une pollution industrielle importante, un centre historique étouffé et une mauvaise gestion de l'eau. La capitale du Pérou n'est donc pas aussi écolo que ça. Et puis un gros flop pour l'émission de la chaîne Discovery Channel, Eaten Alive, manger vivant, revêtu d'une combinaison de protection, un spécialiste de l'Amazonie voulait se faire avaler vivant par un anaconda de 6 mètres de long pour ce show télévisé. Cette expérience a tourné court lorsque le naturaliste a senti son bras prêt à se briser sous l'étreinte du reptile. Au final, le programme a laissé place à une polémique entre défenseurs des animaux et spectateurs déçus que l'expérience ne soit pas allée à son terme avec cet anaconda. L'écriture manuscrite est-elle en train de disparaître? C'est le dossier aujourd'hui de La Tête au Carré. Cha-cha loco avec Joe Jackson sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Quel est petit loup maintenant va sortir son cahier de l'écrivain, son cahier au point vert.
Ses élèves de première année primaire découvrent l'écriture, une véritable aventure tout en images.
Jusqu'en dessous de la montagne et on revient dans le petit tunnel.
Dans leur cahier, ils apprivoisent les lettres, des lignes et des lignes pour trouver le bon geste, petit à petit.
J'apprends à faire des lettres, tu vois, parfois avec la fusée ou le E, la fusée ou le E, la fusée ou le A.
La fusée, c'est la lettre F.
Oui.
Ce qui est génial dans ma profession en première primaire, c'est que les enfants ont envie d'apprendre en première et dès qu'il s'agit de jouer, bah, ils ont plus envie d'apprendre. Donc pouvoir jouer avec son corps, pouvoir utiliser son corps pour vraiment sentir la lettre qui monte, la lettre qui descend, c'est super important pour après pouvoir reproduire ça en 2D dans le cahier.
Voilà un reportage de la télévision belge, l'RTBF à Liège. Sommes-nous en train d'assister à la disparition de l'écriture manuscrite? Rares sont ceux qui continuent aujourd'hui. Il suffit d'interroger les gens autour de vous, leur stylo pour rédiger de longs textes ou des courriers. Et ces changements, on va le voir, ne sont pas sans conséquences sur nos apprentissages en particulier. On en parle avec mes invités. Jean-Luc Velay, donc vous êtes chercheur au laboratoire de neurosciences cognitives du CNRS et de l'université d'Aix-Marseille. Et vos recherches portent notamment sur les relations entre l'écriture et la lecture. Et puis Eric Sadin, vous êtes philosophe, spécialiste de l'évolution de nos rapports au numérique. Les auditeurs nous rejoignent déjà. Il y a beaucoup de messages, hein, beaucoup de questions, déjà des réactions. On sent que le sujet nous touche particulièrement, peut-être d'ailleurs en France, hein, Jean-Luc Velay. Hein.
Ah oui, parce qu'en France, l'écriture a un statut tout à fait particulier. On est quand même le pays où on se targue d'être le pays de la littérature, le pays où on écrit, où on lit. Et donc, quand on commence à toucher ou à parler de toucher à l'apprentissage de l'écriture, de la lecture, d'introduire les technologies numériques à l'école, évidemment, ça soulève beaucoup d'émoi.
Ouais, Eric Sadin, vous le constatez aussi ?
Oui, ce sont un grand pays de l'écriture, la France. Et je relève, je souhaite citer un cybernéticien, Von Foster, qui, dès les années 50, alors qu'il voyait poindre l'importance que pourrait avoir le numérique, avait dit, c'est assez prémonitoire, il avait dit, il faut faire attention à ne pas limiter l'étendue de nos choix. C'est-à-dire multiplier autant que possible les choix qui sont à notre disposition. Or, actuellement, nous voyons, et c'est un peu l'enjeu de cette émission, nous voyons quand même tendanciellement un mouvement de prédominance du numérique.
Du numérique.
Et donc, il y a une vigilance et une prudence relativement à nos usages individuels et collectifs qu'il faut mener. C'est un travail.
Jean-Luc Velay, ça fait combien de temps que vous évoquez peut-être l'idée qu'un jour on abandonne l'apprentissage de l'écriture cursive?
Écoutez, on a commencé à travailler sur ce sujet-là avec ma collègue Marie Clancan à Marseille au début des années 2000, au tout début. Et donc au début, quand on parlait de ça, l'hypothèse, l'éventualité d'un abandon de l'apprentissage de l'écriture manuscrite passait...
On vous rayonnait.
Exactement. On nous critiquait en nous disant que c'était quand même de la science-fiction et que même si ça avait de l'intérêt au plan théorique, on n'en arriverait jamais à ça. Or aujourd'hui, on voit que...
Il y a des exemples, déjà. Avec les élèves finlandais et les Américains.
Il y a surtout les élèves américains, en fait, puisque il y a quelques années de ça, l'organisme fédéral américain qui fait des préconisations pédagogiques pour les écoles de tous les États américains a proposé d'apprendre dès la petite école, le CP pour les Américains, l'écriture dactylographique. Et quand on regarde les programmes que j'ai lus attentivement, ils ne mentionnent plus l'écriture manuscrite, alors qu'ils proposent clairement l'apprentissage de la dactylographie.
Ouais. Donc ce sont des changements réels hein, qui s'inscrivent déjà dans un paysage qui évolue, on le voit bien, avec les nouveaux usages et le numérique en particulier. Hein. Donc ça, c'est une réalité pour les États-Unis. Et pour la Finlande, ce sera pour 2016.
Alors pour la Finlande, c'est pour la rentrée 2016. Mais ça n'est pas, comme il a été dit trop souvent, un abandon de l'écriture manuscrite au sens strict. C'est un changement d'apprentissage de l'écriture. C'est-à-dire que les Finlandais abandonneraient l'écriture cursive, celle qu'on connaît en France, que tous les écoliers apprennent, l'écriture attachée, comme on dit à l'école, au profit d'une écriture en script où toutes les lettres sont détachées parce que cette écriture-là et ces lettres-là sont plus proches de celles qu'on voit justement sur les écrans et dans les livres.
C'est le duel entre les bâtons et l'attaché, hein, justement. Hein, les partisans de l'écriture d'imprimerie ou seule l'écriture cursive, effectivement, et ça fait toujours débat. Jérémy nous dit ceci sur franceinter.fr. Finalement, la disparition d'une forme d'écriture pour laisser la place à une autre forme plus proche de celle que nous lisons, à 99%, donc le script, n'est-il pas un moyen de sauvegarder l'écriture manuscrite plutôt que de la faire disparaître, Éric Sadin.
Peut-être, mais relativement à l'écriture via le clavier, hein, il faut quand même relever c'est discret, mais ça me semble important, la dimension d'effort. C'est-à-dire que l'écriture attachée, l'écriture par le stylo, nécessite un geste. Hein. Je renvoie à ce livre très important de Leroy Gourhan, le geste et la parole. Hein. C'est-à-dire, voilà, le geste conditionne nos façons de penser. Hein. Il y a un effort. Or, je ne veux pas passer pour un réactionnaire, hein, mais l'effort à l'école, c'est constitutif de l'apprentissage. Hein. Le clavier, qu'est-ce qu'il permet? Alors, il permet plein de choses, mais il offre déjà, j'ai presque envie de dire, des touches déjà faites. Donc, il y a un seuil d'effort qui n'existe pas. Ça, c'est discret, mais il faut le relever. Hein. Et il faut relever aussi, vous parliez de l'expérience américaine et des projets en Finlande, il faut relever des expériences très récentes qui se sont passées et qui ont eu lieu en Californie, d'introduction massive de tablettes poussées par Apple depuis un an et demi. Les premiers résultats d'études, c'est une petite catastrophe.
C'est-à-dire
qu'il y a fragmentation de l'attention, qu'il n'y a pas formation suffisante. Ce sont des enjeux capitaux hein, que nous évoquons là, il me semble. Il n'y a pas de formation suffisante des professeurs. Il y a des programmes éducatifs qui sont beaucoup plus chers que ce qui coûtent beaucoup plus que ce qui était initialement envisagé.
Oui.
Et probablement, en tous les cas, moi, c'est ce qui me posait problème relativement à la décision qu'avait annoncée François Hollande lors de son dernière intervention télévisée le 6 novembre dernier.
Qui prône aussi l'introduction massive des tablettes numériques à l'école.
Qui m'avait mis dans une forme toute relative, je vous rassure, de colère, et qui m'a en tous les cas poussé à écrire dès le lendemain une tribune qui était publiée dans Libération. Hein. Ce qui m'a gêné dans l'annonce faite par le président de la République, c'est il a annoncé l'introduction des tablettes, la mise à disposition de tablettes numériques dès la classe de 5e, pour tous les collégiens, dès la classe de 5e, dès la rentrée 2016. Et ce qui m'a relativement choqué, c'est qu'il n'y a pas eu de concertation préalable avec le corps enseignant, ni d'études d'impact menées sur la durée. Mmh. Alors c'est la dimension unilatérale, massive, possiblement exclusive, voire excluante, que je trouve pour le moins problématique.
Jean-Luc Velay, alors.
Oui, moi je suis exactement de cet avis-là. Le numérique a des avantages. Il ne faut pas rejeter les outils, il ne faut pas être passéiste non plus. Comme vous le disiez, ce sont les outils qu'on utilise à l'âge adulte. Et peut-être, et même très probablement, que pour les apprentissages primordiaux à l'école, ils ont des avantages. Néanmoins, ils ont probablement aussi des inconvénients. Donc, ce qu'il faudrait faire avant tout, avant de les introduire de façon massive et, je dirais aussi, irréversible...
C'est évaluer.
À l'école. Évaluer
leur impact.
Exactement. Or, ce sont des études qui ne sont pas faites parce qu'elles seraient longues à faire.
Et c'est là que les neurosciences ont leur rôle à jouer, évidemment.
Les neurosciences et d'autres. Il y a toutes les sciences de l'éducation, la psychologie de l'éducation et d'autres. C'est-à-dire, il faudrait étudier sur plusieurs années l'impact positif et éventuellement négatif de ces changements. Et quand on arriverait à un consensus sur ces impacts, si on constate que les avantages l'emportent sur les inconvénients, alors pourquoi pas? On peut faire dans ce cas-là le changement et franchir le pas.
Eric Sadin.
Oui, c'est, moi, ce que je trouve, ce qui notamment me gêne avec toutes ces affaires actuellement, c'est ce n'est pas l'introduction de l'informatique, voire de tablettes dans certains cours. Il est évident que cela peut avoir plein d'effets bénéfiques. Ce qui est très gênant, c'est la vitesse avec laquelle se prennent les décisions, leur dimension massive. Et, par exemple, il y a dans certains pays où il y a des écoles pilotes, comme en Corée depuis des années, qui permettent d'évaluer au fur et à mesure les impacts. Or, ce qui est gênant quand même et qui est très très problématique d'un point de vue citoyen, hein, en République, c'est quand même que la vitesse du politique actuellement a tendance à s'adosser à la vitesse des développements technologiques. Or, le propre du politique et de la délibération démocratique, c'est quand même d'imprimer un peu de distance, d'avoir des capacités
collectives.
Donc
c'est cette collusion que vous dénoncez aussi.
Alors ça, il faut le dire. Il y a une collusion actuellement très très marquée et sensible entre le monde de l'industrie numérique et le monde politique, non pas que voilà, qui le monde de l'industrie numérique opère des effets de séduction et le régime politique tendanciellement a tendance à croire à des effets solutionnistes avec la technologie. Or tout cela mérite certainement des temporalités progressives et l'implication de toutes les personnes concernées.
Nicolas nous dit ceci sur franceinter.fr, j'utilise mon iPad en permanence, agenda, documentation, apprentissage, je prends aussi des notes dessus au stylet, bien plus pratique en réunion, l'écriture manuscrite n'est pas encore morte, elle connaît simplement une évolution et elle aussi se dématérialise. Sur la prise de notes en réunion, le clavier ne tient pas la comparaison, trop figé, ça n'offre pas assez de liberté ni de rapidité. Alors, on est plutôt dans la dactylographie, là, quand même, aussi. Hein.
Non, mais cet auditeur nous dit qu'il écrit sur son iPad. Donc, effectivement, on peut utiliser les nouvelles technologies, en particulier les tablettes, sans pratiquer la dactylographie en écrivant. C'est-à-dire, c'est aussi tout à fait possible. Alors, ouais. Il se trouve que ça n'est pas peut-être la direction qui va être prise à l'éducation nationale.
On est plutôt dans l'enseignement d'une sorte de dactylographie, c'est ça ?
Oui, parce que ce qu'il y a aussi derrière, c'est le fait que l'écriture sur les claviers, c'est l'écriture partagée, c'est-à-dire l'écriture qu'on peut transmettre en temps réel à tout le monde via Internet, même dans la classe, directement à l'enseignant, etc. Et c'est d'ailleurs ça qui prévaut quand les gens défendent ou promeuvent l'écriture dactylographique, c'est le fait que c'est le mode d'écriture qu'on peut partager immédiatement. C'est-à-dire que derrière, il y a la communication instantanée de ce qui est écrit, alors qu'évidemment, à l'écriture à la main, même si c'est sur tablette, c'est un petit peu plus compliqué.
Oui. Et puis, il y a quand même la rapidité des nouvelles technologies, parce que ça permet aussi d'aller beaucoup plus vite dans l'écriture d'un texte.
Oui, c'est encore qu'il faudrait vérifier ça. J'ai une collègue française et canadienne qui se sont concertées, qui ont fait une étude à l'école avec des enfants francophones, mais certains à Québec, qui écrivent en script. On parlait du script ou des tablettes.
Des tablettes, ça,
oui. Oui, mais l'écriture sur clavier, elle n'est rapide que si on l'apprend vraiment, etc. En même temps, par moments, elle peut être aussi un petit peu trop rapide, éventuellement. C'est-à-dire qu'il faut quand même laisser le temps au processus intellectuel, aux idées, de se mettre en place. Et la technologie a brûlé très vite. Le cerveau, lui, il est toujours le même. Donc, il a sa vitesse propre.
Allez, derrière les mots, justement, Alain Souchon et Laurent Voulzy. Et puis, on se retrouve juste après pour poursuivre notre discussion avec beaucoup de messages pour vous. Vous nous rejoignez dans La Tête au Carré. C'est sur franceinter.fr.
Les sentiments, les pleurs, les envies. tu commences là, Jojo. Et tu dis ça.
Allez. Comme ça. Un cloche, je vais la faire cette lettre.
Mais là, tu as oublié de remonter jusqu'au point. Remonte un peu.
Là, je fais un rond.
Non, il faut que tu commences en haut, Laurent. Il commence en haut. Là.
Comment on fait après?
Allez, on regarde celui de Jojo. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est bien.
C'est bien? Tu pourrais continuer.
C'est un petit peu bien.
Un petit peu bien. Qui c'est qu'on regarde? Marie, après?
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Bien.
Pas bien. Pas bien.
Un peu.
Oui, mais bien. Le mot en bas...
Est-ce qu'on le reconnaît, le mot maman?
Non.
Oui, mais en bas...
Oui, parce qu'elle est un petit peu montée et descendue, c'est ça. Mais quand même, c'est pas mal, je trouve.
Voilà, est-ce que cette scène va s'inscrire dans l'histoire de l'enseignement rapidement? En tout cas, extrait du film Être et avoir de Nicolas Philibert pour parler peut-être de la disparition de l'écriture manuscrite et puis bien sûr de l'avancée rapide vers le numérique et l'utilisation des claviers. Mes invités, Jean-Luc Velay, chercheur au laboratoire de neurosciences cognitives de l'Université d'Aix-Marseille, Éric Sadin, philosophe. Éric a publié d'ailleurs Times of the Signs, hein, c'est votre dernier livre.
C'était en 2007.
Chez Bickhauser Édition. C'était en 2007.
C'était en 2007,
avec des photos, beaucoup de photos d'Asie.
Oui, c'est ça. C'était un projet de recherche que j'avais mené en Asie et particulièrement à Tokyo, dans les villes japonaises, qui explorait l'hétérogénéité informationnelle, oui, marquée par le régime de l'imprimé, les écrans géants, les terminaux interactifs, la voie de synthèse, ce foisonnement informationnel. Et qu'est-ce que je remarque, nous parlons de 2007, qu'est-ce que je remarque aujourd'hui, fin 2014, et c'est en lien direct avec ce que nous évoquons là aujourd'hui, c'est que cette hétérogénéité très très marquée, eh bien, je l'ai vu s'amoindrir, se rétrécir année après année, aussi bien en Asie qu'ailleurs, au profit de ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire d'une prédominance du numérique.
Alors pourtant, au Japon, qui est quand même le pays des idéogrammes, donc il y a aussi un apprentissage, alors là, très particulier, Jean-Luc Velay, de l'écriture, hein, plus que jamais d'ailleurs.
Ah oui, oui, l'écriture japonaise, donc les signes kanji, demandent de nombreuses années pour être apprises, et on sait au Japon depuis très longtemps que la meilleure façon d'apprendre ces caractères, d'apprendre à les reconnaître visuellement, c'est de les écrire pendant très très longtemps et très fréquemment sur la table avec le doigt, en l'air même, avec la main. Et c'est pas du tout rare de voir un lecteur japonais du journal, quand il est face à un caractère dont il ne retrouve plus la signification, de retracer en l'air avec le doigt le mouvement d'écriture pour que la signification lui revienne à l'esprit.
D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est de voir que les petits japonais apprennent les idéogrammes sur les tablettes aujourd'hui, comme quoi les choses ne sont pas totalement incompatibles.
Ils l'écrivent aussi. Hein. Ils l'écrivent avec des stylos aussi.
Ouais, hein. Oui, bien sûr, on peut écrire le kanji avec les tablettes. Néanmoins, si on voit... pas au Japon, mais en Chine, ce qui est en train de se jouer, c'est que pour aller vite, pour écrire vite, pour communiquer en particulier avec les téléphones cellulaires ou les iPhones, les Chinois utilisent un autre mode d'écriture qui ne fait plus appel au caractère traditionnel, mais à une traduction en lettres romaines de ces caractères, ce qu'on appelle le pinyin. Ouais. Et il y a une belle étude qui est sortie il y a quelques années qui montre que malheureusement, les jeunes Chinois ont de plus en plus de difficultés à lire leurs caractères idéographiques.
Ouais, Éric Sadin.
Oui, au-delà de la seule question de la fin éventuelle de l'écriture manuscrite, ce qu'il faut relever, c'est le nouvel environnement cognitif qui est en train de s'instaurer, hein, c'est-à-dire par les ordinateurs portables, par les tablettes.
Ça, c'est toutes les conséquences,
voilà,
évidemment.
Hein. Par la perception de l'information, des textes, des images, de plus en plus via les écrans, il y a des nouvelles pratiques qui s'instaurent. La première conséquence de ces nouvelles pratiques, qu'est-ce que ça induit? Ça induit que par le clavier, il y a la possibilité d'avoir accès à des fonctionnalités multiples. C'est-à-dire que là, par exemple, une feuille ou un livre étaient des objets physiquement clos à eux-mêmes.
Voilà, hein, c'était des lignes. Hein, voilà.
C'était des lignes et c'était des objets faits de papier, d'une matérialité close, hein, à elles-mêmes. Là, il y a une capacité d'écrire, d'aller sur un site, d'envoyer un message. Et ça, qu'est-ce que ça induit?
Il y a de la sollicitation.
Voilà, alors ça, nous le voyons tous. Moi qui écris mes livres à la maison, de maintenir des durées d'attention sans aller sur l'équipe.fr, désolé de citer ce site que j'aime beaucoup, ou lemonde.fr, c'est très difficile, hein, c'est un effort. Et donc, qu'est-ce que ça induit? Ça induit quand même une fragmentation tendancielle de l'attention qui nous regarde tous. Et l'introduction massive des tablettes et des ordinateurs au quotidien, hein, je ne dis pas dans le cadre de classes spécifiques, au quotidien, indéniablement, ça, on ne peut pas éviter ce constat, induit des effets collatéraux, une fragmentation massive de l'attention et un effacement de ce que les Américains appellent la « deep attention », qui est un enjeu, l'attention profonde, qui est un enjeu cognitif décisif aujourd'hui.
Alors, justement, Jean-Luc Velay, pour rester sur ce thème, d'abord un courriel de Gabriel qui nous dit ceci. Je suis un étudiant en géographie, en licence. J'ai cassé mon ordinateur récemment. J'ai donc dû reprendre mes cours à la main durant la réparation. Eh bien, je me suis rendu compte que, certes, la prise de notes est plus difficile, mais depuis, mon ordinateur est réparé et je me suis rendu compte que la mémorisation était nettement supérieure, ainsi que mon attention en cours.
Oui, c'est bien possible parce que Gabriel a dû être formé, comme la plupart des gens, à l'écriture manuscrite dès sa plus tendre enfance. Donc, il a appris à écrire à la main en même temps qu'il apprenait à lire, en même temps qu'il apprenait le langage oral, en même temps qu'il a son cerveau se développait, etc., et que sa pensée se développait. Donc, en fait, pour revenir à l'enjeu du débat, la vraie question, c'est si on change ses pratiques au moment de l'apprentissage, des apprentissages premiers, ce qu'on fait pratique quand les enfants sont tout petits, les enjeux peuvent être majeurs. Qu'un adulte passe de l'écriture au clavier, à la main à l'écriture au clavier, ça peut avoir des conséquences, mais les conséquences sont minimes. Qu'on fasse, on introduise ce changement, c'est les enfants tout petits au moment où ils sont en train d'apprendre la langue, le langage, etc. C'est là qu'on tire un petit peu la sonnette d'alarme en disant attention, il faut absolument étudier les conséquences au plan cognitif.
Alors justement, ça ce sont les travaux que vous menez avec évidemment des résultats extrêmement intéressants sur d'abord le geste d'écrire, ce qui se passe dans notre cerveau, sur les répercussions, sur beaucoup de choses aussi, sur la lecture par exemple, on parle de la mémorisation, mais sur le fait même de savoir lire et bien lire, le fait d'apprendre à écrire à la main change les choses, sinon évidemment avec le numérique qui arrive. Et là, on voit que les résultats ne sont pas du tout les mêmes, hein, c'est ça.
Ben disons qu'on apprend à lire et à écrire en même temps quand on est enfant. Donc il y a une espèce d'interaction permanente entre les processus cérébraux mis en jeu pour la lecture et ceux mis en jeu pour l'écriture. Et nous, avec ma collègue Marie Cloncamp, nous avons montré que si on apprend à des petits-enfants en maternelle à écrire les lettres au clavier, ils reconnaissent moins bien ces lettres que quand ils apprennent à les écrire à la main. Et reconnaître les lettres, les identifier, c'est le processus d'entrée de la lecture. C'est-à-dire que pour lire un mot, il faut identifier les lettres qui sont dedans. Par conséquent, si on projette ça, et cette étude, on l'a faite sur une courte durée, quelques semaines simplement. Maintenant, imaginez que des enfants n'apprennent plus à écrire à la main pendant plusieurs années. Que va devenir leur lecture? Il est possible et même probable qu'il y aura des conséquences de ce point de vue-là.
Oui, Éric Sadin.
Alors, il faut aussi énoncer le fait que lire... Aujourd'hui, lire, c'est écrire. Alors vous allez dire, mais de quoi je parle ? Ben, lire sur un écran d'ordinateur, c'est diffuser des traces. Hein, c'est sur Internet. Lire, c'est-à-dire je lis une page, j'écris sans le savoir. C'est-à-dire que je témoigne de mes comportements, je diffuse des traces, ces traces qui sont récoltées, traitées, et cela a déjà lieu à l'école. C'est-à-dire que l'apprentissage via des protocoles numériques interconnectés, il faut relever le fait indissociable que ça induit non seulement une diffusion de traces, qu'on lise ou qu'on écrive, ou même qu'on échange des messages ou qu'on s'adonne à d'autres types d'activités via ces protocoles, et ça induit une connaissance d'un nouveau genre relativement aux pratiques des élèves, aux pratiques des étudiants, et même aux pratiques des professeurs. C'est-à-dire qu'il y a une quantification via ces protocoles interconnectés des étudiants et des professeurs, qui induit un nouveau genre de connaissances qui est extrêmement problématique. Aujourd'hui, où nous parlons plus que jamais des surveillances, un an plus tard, l'affaire Snowden, et cette connaissance-là, vous savez que des applications développées par Apple ont fait l'objet d'une class action, c'est-à-dire d'une plainte collective aux États-Unis, parce que des applications éducatives développées par Apple étaient revendues à des compagnies privées de façon à ce qu'il puisse y avoir des suggestions individualisé, personnalisé aux étudiants. C'est pas rien comme enjeu, hein. C'est-à-dire que les tablettes numériques ne s'arrêtent pas aux salles de classe. Elles induisent des nouveaux genres de connaissances relativement aux élèves et aux étudiants. Et ça, il faut le relever et le signaler.
Un message de l'or, et bien déjà que toute une génération ne sait plus écrire trois lignes sans recourir à un correcteur d'orthographe, la prochaine ne saura plus écrire du tout sans un ordinateur. On appelle ça créer des besoins, Jean-Luc Velay.
Oui, d'un certain point de vue, on crée une dépendance, ça c'est clair. La dépendance à La dépendance à la technologie pour lire et pour écrire, elle est en train de se mettre en place de manière très très forte, alors qu'aujourd'hui on peut dire qu'on est dépendant, il faut une feuille de papier et un crayon pour écrire, c'est une dépendance mais très légère. Demain, si on ne sait plus écrire avec un crayon, on aura besoin absolument d'un outil pour écrire. Il faut aussi parler de l'obsolescence de l'outil. Les claviers d'aujourd'hui ne seront pas forcément ceux qui existeront demain. Et par conséquent, même les enseignants, c'est-à-dire qu'apprendre à écrire au clavier, ça signifie que les enseignants doivent être formés pour ça. Alors, enseigner la dactylographie, ça n'est pas rien, ça s'apprend. Et donc, si les claviers changent, les enseignants vont être en grande difficulté.
Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup de messages pour vous sur le site de l'émission franceinter.fr et sur Twitter avec le mot-clé l'attaque.
I know that it's been wrong. It shows in your reflection. You've fallen out of touch. Got lost along the way. And no, it's not enough. But these things, they all get better. And even if it's tough, you know we love our inside. Human again. And all that has been hard, but even when it's hurting, you're gonna have to start to learn to recognize. That even in the dark, there's lines between the spaces hiding where you are. You know we on the inside. Should you show we
Human à kilo à l'instant.
La tête carrée sur France Inter.
Voilà la fin de l'apprentissage de l'écriture manuscrite. Jean-Luc Velay, Éric Sadin, mes invités, vos messages très nombreux. Pascal qui nous envoie ce témoignage depuis Montréal. On la salue. J'ai vécu 25 ans au Québec. J'ai élevé 4 enfants. Aucun d'entre eux n'a appris à écrire en cursif puisque ça ne se pratique pas là-bas. Depuis que je suis revenu en France, donc elle est à nouveau sur notre territoire, je ne comprends toujours pas l'obsession du cursif. D'autant que mon fils 10 a vécu la transition comme un enfer. Alors 10, Jean-Luc Velay, dyslexique,
dysgraphique, ce sont ces enfants qui ont des troubles spécifiques des apprentissages et qui effectivement peuvent être en grande difficulté pour l'apprentissage de l'écriture cursive qui est quand même plus complexe que l'écriture en script qu'on apprend au Québec.
Ouais. Donc l'usage du clavier peut aider justement ces enfants
très probablement. Nettement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus complètement être farouchement et dogmatiquement opposé à l'utilisation des claviers. Il y a beaucoup d'enfants pour lesquels ça permet d'entrer dans le monde de l'écrit et tant mieux. C'est-à-dire dans ces cas-là, il ne faut surtout pas, refuser ce passage.
Beaucoup de témoignages. Hein. Julien nous dit aussi que sa belle-fille a 6 ans en CP dyspraxique, justement. La qualité de l'écriture étant un critère de notation jusque tard dans la scolarité, ces enfants sont mis de côté et en échec en dépit de leur grande qualité.
C'est vrai.
Éric Sadin.
Oui, Oui, tout à l'heure, nous disions lire, c'est écrire. Il y a des nouvelles pratiques aussi d'écriture qui se développent.
C'est-à-dire ?
C'est par l'oral. C'est-à-dire que parler, c'est écrire aujourd'hui. Il y a des techniques qui permettent, via des procédés de reconnaissance vocale, d'identifier la voix, de comprendre le langage naturel. Et cela concourt, participe d'un rapport de plus en plus fluide, familier, intime que nous entretenons à la technique. Nous parlons de gestes, hein, le geste du cursif. Mmh. Il y a le tactile, évidemment, induit un rapport de plus en plus resserré au corps. Hein. Et là, la voix, c'est ce que je nomme dans mon jargon le corps interface. C'est-à-dire c'est le corps directement qui par ses manifestations, comme la Wii en jeu vidéo, est soumis à des interprétations par des processeurs. Et puis, il y a aussi le fait, et ça c'est pas rien quand on parle de nouvelles pratiques d'écriture, c'est l'écriture algorithmique quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on écrit des séquences d'écriture de façon à rendre possible des modalités techniques, des applications, des fonctionnalités. Ouais. Donc c'est aussi un nouveau type d'écriture.
Et il y a même des algorithmes qui écrivent pour nous.
Alors, hein, c'est exactement
qui
ça.
Qui écrivent des livres tout seuls.
Alors, il y a de l'écriture machinique, c'est-à-dire de l'écriture par des systèmes dits intelligents, ouais, qui eux-mêmes suggèrent, nous conseillent des choses par du langage naturel. Alors c'est très troublant aussi de voir que nous sommes à un moment de l'histoire de l'humanité où des machines sont capables d'écrire quand même. C'est très très troublant. Ouais.
Hein. Jean-Luc Velay, alors c'est pas grave, on a un téléphone portable qui est en train de sonner, mais c'est normal, nous sommes en direct, on parle du numérique, ça tombe bien. L'impact justement des changements d'habitude sur la lecture, vous le disiez, sur la mémorisation. Et sur le corps aussi, alors ?
Oui, parce que derrière tout ce changement d'apprentissage de l'écriture, ce n'est pas simplement un changement de geste. Après tout, on pourrait dire écrire au clavier, c'est toujours écrire. On utilise ses mains et même ses deux mains. Alors que dans qu'est-ce que ça change par rapport à l'écriture manuscrite ? Et tout ce qu'il y a derrière, c'est la mise en jeu du corps dans les processus cognitifs. On a longtemps et trop longtemps pensé que la pensée, les processus cognitifs, c'était quelque chose d'abstrait dans lequel le corps n'avait que très peu à voir. Mmh. Et finalement, on sait maintenant depuis quelques dizaines d'années, c'est tout ce qu'on appelle la théorie de la cognition incarnée, c'est que nos processus de pensée sont enracinés dans nos activités corporelles. Or, les actions que l'on commet avec les outils numériques, les relations entre le corps et l'outil, changent radicalement la mise en jeu du corps, justement. Et ce que nous avons montré, c'est que pour l'écriture, le mouvement que l'on fait quand on écrit à la main, il crée une mémoire sensorimotrice qui est très utile ensuite, probablement pour la lecture.
Donc il y a quelque chose qui s'inscrit plus durablement, justement ?
Voilà, exactement. C'est que cette mise en jeu du corps, qui n'est pas la même au clavier et à la main, elle permet de créer une mémoire sensorimotrice, encore une fois, mmh, et qui intervient à tout moment, même dans la reconnaissance purement visuelle. Donc une espèce de simulation interne, si vous voulez, des mouvements d'écriture au moment où on est en train de lire.
Sur Twitter, les auditeurs nous écrivent justement des messages courts. Alex, si l'écriture cursive est abandonnée, les experts graphologues auront bien du mal à décrypter les lettres anonymes des corbeaux. Bon, ça, c'est une petite remarque en passant. Ronin nous dit, beaucoup de professionnels prennent encore leurs notes en réunion à la main et sur cahier, en papier. C'est vrai, on l'observe. Et puis un autre message de Larry, en France, la graphologie est toujours beaucoup utilisée. Sinon, pourquoi vous demande-t-on une lettre de motivation manuscrite ?
Oui, c'est exact.
C'est une façon de distinguer les individus ?
Alors, mais c'est qu'on considère que dans l'écriture, les graphologues considèrent que dans l'écriture passe quelque chose de la personnalité. D'ailleurs, les graphologues disent, si on écrit au clavier, ce sera beaucoup plus difficile de voir à travers l'écriture la personnalité de la personne qui a écrit. Bon, on peut discuter de cette utilisation de l'écriture, il est clair que s'il y a un changement de pratique de l'écriture, c'est un petit peu la fin de la graphologie.
Un prof de maths nous écrit, en tant que prof en lycée, je vois de plus en plus d'élèves qui arrivent en classe avec un ordinateur portable en me demandant si ça me dérange qu'ils l'utilisent pour prendre des notes. Je dis toujours oui, et ça m'amuse de les voir abandonner au bout de quelques minutes. Comment dépasser la prise de notes classique en maths où on utilise beaucoup de symboles particuliers et on écrit en indice en exposant? C'est vrai que ça doit être très compliqué de chercher sur un clavier d'ordinateur.
Certainement, évidemment, et aussi l'usage de l'ordinateur. Il y a des applications éducatives de commenter constamment ce que fait le professeur, de se commenter les uns les autres. Je ne suis pas sûr que là, ce soit des pratiques, en tout cas, qui mériteraient là encore des études et des examens. C'est-à-dire l'idée de l'expressivité continue, l'idéologie du participatif. Elles sont très, très fortes aujourd'hui. Et quand elles intègrent l'école, il y aurait de quoi mériter des moments de réflexion et de pause.
Jean-Luc Velay.
Oui, en fait, effectivement, écrire pour les mathématiciens, utiliser un clavier pour écrire, ça paraît un peu difficile parce qu'ils ont besoin d'utiliser d'autres choses que la pure écriture. Ils font souvent des flèches, ils dessinent en quelque sorte en même temps qu'ils écrivent. Ça crée des relations entre les parties du texte, etc. Et c'est quelque chose qui aide beaucoup la pensée en mathématiques.
Ouais. Allez, deux messages pour terminer. Viron nous dit ceci: la disparition de l'écriture manuscrite ne serait-elle pas le signe d'un déclin de notre civilisation humaniste au profit d'une autre époque technicienne et dépourvue de culture?
Ça, c'est une question capitale. Alors, est-ce qu'on va être aussi radical que cela? C'est évident que les technologies numériques, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'il se passe, ce n'est pas définitif. Mais il y a une marginalisation du livre, hein, inquiétante, de l'imprimé. Et quand même, le livre, l'imprimé, tendanciellement, concourt à soutenir l'attention profonde. Donc, l'attention profonde, qu'est-ce que c'est? C'est la réflexion, c'est la maturation du savoir. Et aujourd'hui, les technologies numériques, on constate quand même qu'elles appellent des jeux de réactivité, d'interactivité continue, de saut, de ce dont nous parlions tout à l'heure. Et cela, il y a de quoi avoir, ça suscite malgré tout des formes d'inquiétude, certainement.
Et puis Magda nous dit ceci: je pense que l'écriture sur papier génère un autre mode de pensée et de communication. Le geste induit une pensée plus posée. Et parce qu'écrire à la main demande de prendre son temps, alors ne privons pas une génération de cette possibilité, donnons-leur le choix.
Oui, je pense que
ce sera la conclusion sage de cette émission, au fond.
Effectivement. Oui, il faut au moins prendre le temps de réfléchir abondamment et suffisamment avant de changer, encore une fois, les modes d'enseignement ancestraux.
Merci infiniment à tous les deux, Jean-Luc Velay et Eric Sadin. Il y a eu énormément de messages sur ce thème, donc visiblement ça passionne, ça divise aussi les auditeurs qui peuvent poursuivre leurs messages. Hein. Vous pouvez commenter encore sur le site de la Tête au Carré et vous répondre en simultané. C'est aussi de cette façon que vous pouvez utiliser les outils de France Inter, franceinter.fr. Merci beaucoup à tous les deux. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Qui écrit ses textes à la fois sur son ordinateur et à la main, parce que je vois que vous corrigez, Fabrice.
C'est les dernières corrections, vous savez, avant le discours.
Juste avant l'antenne. Bon. De quoi vous nous parlez aujourd'hui, Fabrice?
Dans l'affaire sensible du carrefour du développement, qui était la première affaire politico-judiciaire de la gauche au pouvoir, avec la fameuse expression « vrai-faux passeport », vous vous souvenez?
Oui.
Duchalier, l'expression fera date. On en parlera avec notre invité Jean-Marie Ponto, notre confrère qui a enquêté et qui a publié un livre intitulé « Enquête sur un carrefour dangereux ».
Et ce sera affaire sensible après les infos. Merci Fabrice Drouel.